Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
AVS, c'est pour à votre santé. Bonjour et bienvenue. Ravi de vous retrouver. Mon invité ce matin s'appelle Tayeb Chouirev. Bonjour et bienvenue.
Bonjour et merci de m'accueillir.
Bah écoutez, ça fait 15 ans que je vous ai pas invité. Non, 15 ans que vous n'avez pas répondu à mon invitation. Bon. Donc ça me fait très plaisir de vous revoir.
C'est une grande joie, vraiment.
Vous êtes un docteur en islamologie, écrivain et conférencier. Vous êtes spécialiste de la mystique musulmane et des sciences du hadith, ça tombe bien, on en aura besoin ce matin, et vous publiez La médecine prophétique, approche traditionnelle et recherche contemporaine aux éditions Tasmin. Il y a peu de livres qui traitent de médecine prophétique. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, que c'est une spécialité en soi, la médecine prophétique, ou pas du tout ?
Oui, effectivement, on peut dire que c'est une spécialité littéraire, c'est-à-dire que la plupart des ouvrages traitent plutôt de médecine arabo-musulmane, ce qu'on appelle en arabe « tibiyunani », en référence à la médecine grecque, la médecine hippocratique. Et donc, cette médecine qui s'est beaucoup développée, dont Avicenne est un des grands noms. Mais par contre, la médecine prophétique, c'est-à-dire vraiment les recommandations, les conseils prophétiques, les pratiques prophétiques aussi, les pratiques de médecine recommandées donc, dans les hadiths, c'est plutôt rare, effectivement.
Et ce qui est important de dire, c'est que la médecine prophétique n'est pas la médecine arabo-musulmane. C'est différent.
C'est différent, c'est ça. C'est-à-dire que la médecine arabo-musulmane a pris cet héritage et puis l'a enrichi avec d'autres pratiques, notamment la médecine grecque et puis un peu plus tard la médecine indienne. Et puis les propres découvertes des médecins arabes aussi. Hein. Il faut dire que Avicenne, Razi aussi ont enrichi et découvert aussi beaucoup de choses.
Des grands médecins. Quelles sont vos sources donc pour écrire votre livre ?
Alors, ça a été d'abord les grands recueils de Hadith, puisque dans le recueil de Bukhari, dans le recueil de Muslim et d'autres, vous avez des chapitres consacrés à la santé, à la médecine. Et puis ensuite, il y a des ouvrages spécialisés, c'est-à-dire que certains compilateurs de l'époque médiévale ont eu comme projet de rassembler les versets du Coran et l'ensemble des hadiths qui évoquaient soit un sujet de santé, soit une pratique médicale.
Alors c'est vrai qu'on réduit souvent la médecine prophétique à l'hijama.
Oui. Hein,
c'est la tête de gondole.
Voilà. Hein, c'est ça. Et comme remède, l'huile de nigel.
Bah voilà.
Voilà.
Alors, Abba Saouda, donc, qui sauve de tout.
Voilà. Alors qui est effectivement un des grands remèdes de la médecine prophétique, mais il y a bien d'autres choses en fait. Et la hijama, donc la pose de ventouse et l'utilisation de l'huile de nigel, ne sont qu'une petite partie, que la face visible, disons, de l'immense iceberg de la médecine prophétique, qui elle va englober vraiment la santé à un niveau très global. C'est-à-dire que l'être humain va être pris comme un tout, avec ces trois dimensions, corporelles, psychiques et spirituelles. Et la santé est vue dans la médecine prophétique comme un équilibre de ces trois dimensions. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est de comprendre un peu quelle est la cohérence et quelle est en fait l'approche finalement de l'être humain dans la médecine prophétique.
C'est une médecine holistique, comme on dirait.
Exactement, aujourd'hui.
Voilà, comme on dirait aujourd'hui. Hein.
C'est ça, c'est vraiment tout à fait ça.
Et intégrative. Quelles sont les vertus thérapeutiques que le prophète attribuait aux jeunes ?
Alors effectivement, parmi les moyens de garder la santé, voire même de recouvrer cette santé, il y a le jeûne. Il disait « Soumou tasihou »,« Jeûnez, vous retrouverez de la santé ». Alors les grands bienfaits, on pourrait dire, du jeûne, ça va être de mettre le corps au repos et de restituer au corps ses capacités d'auto-guérison. Parce que très souvent, quand on parle de pratiques médicale, on imagine que finalement on va apporter de la santé au corps, on va obliger le corps à aller dans un autre sens ou l'obliger à réparer telle chose, alors que finalement en médecine prophétique on partira plutôt de l'idée que le corps est capable d'auto-guérison pour peu qu'on lui en laisse l'occasion. Et une des choses qui va entraver les processus d'auto-guérison, c'est par exemple le fait de trop manger, parce que la nourriture demande un effort considérable par la digestion. Et toute cette énergie qui va être mise au service de la digestion, eh bien, n'est plus mise au service de l'auto-guérison. Mmh. C'est quand le corps est au repos que les processus d'auto-guérison vont se mettre en place. Et c'est quelque chose qui est confirmé par la science moderne, hein, c'est quelque chose qui est confirmé par la recherche actuelle, à savoir qu'effectivement, que ce soit le jeûne intermittent, que ce soit la restriction calorique, ont cette vertu, je dirais, de favoriser un retour à l'équilibre et donc un retour à la santé.
Mmh. Qu'est-ce qu'on sait dont la façon dont le prophète s'alimentait?
Ah, alors ça c'est une grande question, une question importante.
Et après on verra comment il s'alimentait pendant le ramadan, mais comment il s'alimentait au quotidien?
Exactement, c'est vraiment une question importante parce que dans l'imaginaire de beaucoup de musulmans, et peut-être aussi de certains non-musulmans, le prophète était quelqu'un qui pouvait manger très souvent de la viande. Or c'est faux. Effectivement, il a évoqué la viande de l'Aïd ou la viande de la Hariqa, c'est-à-dire le sacrifice qui est fait lors d'une naissance. Mais très précisément, il mangeait de la viande que pour les grandes occasions.
Mmh. Mais il n'était pas végétarien.
Alors, il n'était pas végétarien, mais on sait que son alimentation était essentiellement végétale et même crue. Du végétal et du cru, c'était la majorité de son alimentation. On a interrogé, enfin c'est le neveu de Aïcha qui interroge donc l'épouse du prophète pour lui dire, du temps du prophète, que mangiez-vous? Et elle répond, nous mangions les deux aliments que sont l'eau et les dattes. Et il pouvait se passer plusieurs lunes sans que nous n'allumions le feu à la maison. Ce qui veut dire que finalement, elle insiste aussi sur le fait que...
C'était cru, ouais, voilà.
C'était cru, ouais. Effectivement. Alors, elle ajoutait aussi, de temps en temps, nous avions du lait de brebis. Et puis, parfois, des voisins nous apportaient des galettes d'orge. Voilà, donc on voit une alimentation très simple.
Je ne sais pas s'il n'y a pas une recette de galettes d'orge dans votre livre, d'ailleurs.
Alors, il y a une recette à base d'orge, c'est de la crème d'orge, c'est ce qu'on appelle talbina. Et en fait, c'est un remède, effectivement, qui était recommandé par le prophète pour les personnes qui avaient du mal à sortir d'un deuil, pour les femmes aussi qui avaient perdu beaucoup de sang lors d'un accouchement. Il recommandait de se nourrir pendant un certain temps de cette crème d'orge. Donc, on fait cuire la farine d'orge dans de l'eau. On rajoute un peu de miel si on veut, une pincée de cannelle aussi si on veut. La recette est dans le livre. Et puis, en fait, effectivement, il y a des études, notamment un essai clinique qui a été fait sur des personnes âgées dépressives en Malaisie, qui a montré que la talbina, au bout de quelques semaines, permettait une amélioration de l'humeur, permettait un retour à une certaine vigueur.
Alors, c'est important ce que vous dites, parce que vous illustrez justement cette médecine prophétique avec les recherches d'aujourd'hui.
Oui.
C'est important de voir que aujourd'hui il y a des essais qui sont faits thérapeutiques.
Tout à fait, exactement. J'ai voulu en fait dans le livre équilibrer les choses entre l'approche traditionnelle, c'est-à-dire la recherche dans les hadiths, essayer de trouver les hadiths les mieux authentifiés, les hadiths dont la chaîne est la plus solide, et puis en même temps d'apporter l'éclairage des recherches contemporaines, parce que comme vous venez de le dire, en fait il y a de plus en plus de recherches qui sont faites autour de ces remèdes traditionnels de la médecine prophétique. Alors parfois, pas forcément parce que c'est de la médecine prophétique. Par exemple, il y a des remèdes comme le Wars qui sont connus dans d'autres médecines.
Mais attendez, il faut expliquer le Wars, là, attendez.
Alors, le Wars, c'est une plante qui s'appelle le Mémécylone.
C'est des petites graines, non?
Alors, ça se consomme sous forme de poudre. Dans le livre tout le descriptif. Et ça appartient aussi, c'est aussi un remède de la médecine ayurvédique. Et donc là, il y a beaucoup de recherches en Inde qui ont été faites autour de ce remède-là. Donc vous voyez, donc parfois, des recherches qui ont trait à la médecine ayurvédique vont éclairer la médecine prophétique et inversement, parce qu'il y a parfois des remèdes qui sont communs.
Et quelles sont les indications, par exemple, du WARS?
Alors, il est antibactérien, il est antiviral, donc il va aider dans les affections ORL, donc grippe, rhume, etc. Il a aussi des vertus anti-inflammatoires, donc pour l'inflammation chronique dans le corps. Et le prophète le recommandait pour la pleurésie. La pleurésie, c'est l'inflammation de la plèvre, donc la membrane qui recouvre les poumons. Et c'était une affection relativement courante à l'époque. Et donc, il donnait, comme ça, du WARS ou du costus indien aussi.
Costus pour tout le monde.
Voilà. Et donc, finalement, c'était l'effet anti-inflammatoire qui était voulu.
Alors, vous disiez tout à l'heure qu'il pouvait se passer plusieurs lunes sans que le feu soit allumé, mais le prophète n'aimait pas manger trop chaud. Oui. Et il refusait qu'on souffle sur la nourriture pour la refroidir, hein, comme on fait nous avec la soupe le soir quand c'est trop chaud.
C'est ça, exactement. Il y a ces deux prescriptions qui peuvent paraître contradictoires, mais qui ne le sont pas en fait. Hein. Il y a d'abord une mise en garde contre la nourriture trop chaude. Il disait que la nourriture chaude est une nourriture trop chaude, est une nourriture sans baraka, sans bénédiction. Il fallait attendre que ça refroidisse, mais il fallait le laisser refroidir naturellement et non pas souffler dessus. Mmh. Et alors aujourd'hui, les études montrent que les personnes qui ont l'habitude de boire par exemple leur thé très chaud ou boire leur café très très chaud vont développer 60% de risque de plus de faire un cancer de l'œsophage. C'est donc quelque chose qui est assez agressif pour les muqueuses. Mmh. Et même si on s'y est habitué avec les années, ce n'est pas pour autant que le corps, lui, n'en souffre pas.
Mmh. Et aussi cette idée qu'il ne faut pas se jeter sur la nourriture et qu'il faut attendre aussi. Quand voilà. On attend que ça refroidisse un petit peu...
Voilà, je crois qu'il y a aussi tout un côté éducatif, éducation de l'âme, à laisser quelques minutes à la nourriture pour se refroidir. Et certains évoquent aussi le fait que quand la nourriture est devant nous et qu'on ne mange pas tout de suite, il y a production davantage donc de salive, hein, comme on le dit très souvent, un plat savoureux me fait saliver. Mmh, ouais. Or, c'est une préparation du corps à la digestion. On sait que la salive est très importante pour la digestion des amidons, la digestion donc.
La digestion commence dans la bouche de
des sucres lents.
Ouais.
C'est exactement ça.
Ouais. Donc ça c'est important. Qu'est-ce qu'on sait dans la façon dont le prophète s'alimentait pendant le mois du Ramadan?
Alors, donc, on sait qu'il tenait à ce que les deux repas soient respectés, c'est-à-dire qu'on mange, bien sûr, à la rupture du jeûne, et on n'abandonne pas complètement non plus le sahur, donc le petit repas qu'on va prendre avant l'aube, parce qu'il disait qu'il y a une grande bénédiction en cela. Et donc, en même temps, il y a probablement l'idée aussi que si on prend quelque chose lors du sahur, ça nous aide lors de la journée. Mmh. Et puis, ça nous permet peut-être le soir de moins se jeter sur la nourriture, parce que c'est un des risques, en fait. Hein. C'est d'avoir une attitude vraiment, trop gourmande sur la nourriture, si bien qu'on va perdre très rapidement les bienfaits du jeûne. Parce que, bon... Je suppose que quand on fait un jeûne hydrique de plusieurs jours, on est davantage conscient qu'il faut revenir vers la nourriture progressivement. Mais quand on fait le jeûne du Ramadan, certes, c'est seulement une journée, mais quand même, le corps a été privé de nourriture et de boisson. On sait que l'estomac s'est un peu rétracté, et donc il faut y aller très progressivement. Et puis surtout, si on veut bénéficier des bienfaits santé, si on veut que le corps se régénère, il faut qu'il ait un travail de digestion modeste.
Alors, vous publiez La médecine prophétique, montrez-le à la caméra puisque l'émission est enregistrée, approche traditionnelle et recherche contemporaine. Tayeb Chouereff est notre invité jusqu'à 13h.
AVS revient dans un instant. Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, et nous parlons de médecine prophétique aujourd'hui à travers la publication du livre de Tayeb Chouereff qui est mon invité. Et le livre s'appelle La médecine prophétique, approche traditionnelle et recherche contemporaine aux éditions Tasnim. Sur la star du mois de Ramadan, c'est la date. Il y a beaucoup d'aliments qui sont des aliments dits remèdes. Alors comment le prophète utilisait-il cette expression d'aliments remèdes?
Oui, alors effectivement, il y a des aliments qui vont être intégrés donc dans la vie de tous les jours, mais qui vont pouvoir être pris de façon très spécifique pour telle ou telle vertu. Et c'est le cas de certaines variétés de dattes. Alors nous, ici, en Occident, et puis souvent au Maghreb, on est habitué à la date d'Eglet Nour. Mais les dates dont nous parle le prophète, pour les vertus en tout cas, santé, c'est la date Ajwa. Donc ce sont de petites dates noires, voilà, ouais. Un peu fripées, qui ont en fait des vertus sur comme le système cardiovasculaire. En fait, elles ont cette capacité d'améliorer le système cardiovasculaire. Et il recommandait d'en manger 7 le matin. Et au-delà de l'aspect purement physiologique, disons, il disait aussi qu'il y avait une protection contre le mauvais œil, contre les mauvais sorts.
Et, alors, 7 le matin, pas pendant le ramadan, c'était 7 tous les jours ?
Alors, 7, oui, ça pouvait être 7 chaque matin pour ceux qui en avaient le besoin. Et, voilà.
Ah ouais.
Et puis, alors là, pour des cas plus spécifiques, par exemple, pour des personnes qui avaient des atteintes du cœur déjà marquées, c'était le cas du compagnon Saad qui avait une difficulté cardiaque, eh bien, en fait, il recommandait de prendre des dattes à joie, de les moudre avec le noyau, c'est-à-dire que le noyau va être moulu avec la pâte, et de laisser la pâte agir à l'intérieur de la bouche collée à la joue. Alors nous, aujourd'hui, on sait que la joue est étant très vascularisée, les principes actifs vont passer très facilement dans le sang. Et récemment, il y a eu une étude qui a été menée sur l'action de la date à Ajwa sur la santé cardiovasculaire et puis donc des effets anti-cholestérol, anti-triglycérides, etc. ont pu être montrés. Tout ça, c'est dans le livre. Pour ceux que ça intéresse.
En plus, elle a un goût magnifique.
Oui, c'est vraiment très très bon.
Presque fumé d'ailleurs, enfin je sais pas comment vous le définissez, ce goût.
Oui, c'est difficile, c'est vraiment une expérience à faire. Alors c'est sucré certes, mais le sucre est en quelque sorte caramélisé. Donc voilà, c'est ça.
Comment est-ce qu'il rompait le jeûne?
Alors il pouvait rompre parfois avec un verre d'eau, pour sa pureté, parfois avec un verre de lait, parfois avec quelques dattes, mais donc on voit toujours avec des aliments assez simples. Encore une fois, c'est pas un plat cuisiné par lequel on va commencer, c'est plutôt donc de l'eau ou des dattes. Alors on sait que l'eau évidemment va tout de suite aider le corps à se réhydrater. Et puis aussi, ce que disent certains spécialistes, c'est que la date va être utile pour apporter un peu de glucose au corps qui a manqué de glucose durant la journée.
C'est le coup de boost, en fait.
Exactement.
Alors, le starter.
Exactement. Si on reste sobre, disons, dans la sobriété, parce que si on prend 20 dates, ça donne un pic de glycémie qui vont être...
Déjà, cette date, c'est pas mal. Hein.
C'est déjà pas mal.
Bon, elles sont petites. Hein, les ajoies, elles sont toutes petites. Hein.
Voilà, exactement. Quand on enlève le noyau, ça fait pas énorme.
Certains remèdes qui sont cités dans les hadiths ne sont plus identifiables. On a perdu beaucoup en variété?
Alors, effectivement, il y a parfois la difficulté de retrouver la plante avec la variété précise. D'abord, il faut savoir que aujourd'hui, on a tout de suite le réflexe d'aller vers la classification scientifique pour identifier précisément une plante. Mais la classification scientifique, avec le nom latin, ça ne date que du début du 19e. Bon. Donc, avant cela, une même dénomination pouvait englober un très grand nombre de plantes. Donc ça, c'est une première difficulté. Deuxième difficulté, il y a parfois des plantes qui n'existaient qu'en Arabie. Par exemple, il y a un remède qui s'appelle Sennout, et le prophète donc recommandait le Sennout comme une sorte de remède qui booste dans tous les domaines. Voilà. Force physique, amélioration du sommeil, etc. Bon. Mais plus personne ne sait ce que...
Un remède universel, alors.
Voilà. Un peu comme l'huile de Nigel ou la graine de Nigel qui est présentée comme un remède universel par le prophète. Il disait que ça aide contre toutes les maladies sauf la mort. Bon, mais alors, ce fameux Sennout, même les commentateurs d'hadith les plus anciens, c'est-à-dire dès les premiers siècles de l'islam, disent qu'ils ne savent plus ce qu'est le sanout. Alors il y a des hypothèses. Pour certains, c'est le fenouil. Pour d'autres, c'est le miel. Ce serait une dénomination du miel. Mais en tout cas, il n'y a pas de certitude. Alors fort heureusement, il y a quand même une majorité de plantes et de remèdes qu'on connaît encore bien aujourd'hui.
Qu'on connaît bien, mais qu'on n'utilise plus non plus forcément aujourd'hui en 2024. Quoi.
Voilà. Alors, comme je disais, parfois certains remèdes ont été sauvés de l'oubli par la médecine ayurvédique, la médecine indienne, comme le fameux Wars dont je parlais tout à l'heure. C'est le Haritaki de la médecine ayurvédique, qui est très connu et très utilisé. Et du coup, comme ça, il y a des espèces de
passerelles,
qui se font.
Ça, c'est intéressant d'ailleurs.
Oui.
Quels sont les principes directeurs de la médecine prophétique ?
Alors, j'ai identifié 4 grands principes. D'abord, le premier principe, c'est un principe de regard sur la maladie. C'est-à-dire que la médecine prophétique nous enseigne à ne pas voir la maladie comme un simple dérèglement physiologique. La maladie a un sens, c'est une sorte de message que le corps nous envoie. Alors ça peut être pour nous alerter sur des excès, ça peut être pour nous orienter vers un autre mode de vie. Il y a un message qu'il faut comprendre. Et donc la médecine prophétique invite, en temps de maladie, à revenir sur soi et essayer de comprendre qu'est-ce qui dans ma vie, dans mon mode de vie, dans mon mode d'alimentation, doit être changé. Le deuxième,
c'est pas un châtiment, quoi.
Et c'est surtout pas un châtiment. C'est au contraire une purification. C'est-à-dire que le prophète disait toute maladie, toute souffrance physique, même la simple épine qui vous pique, est une source de purification de vos fautes et de vos péchés. Donc il y a ce principe très fort. Il y a un autre principe aussi qui, je trouve, est très actuel, c'est le fait de relativiser le rôle de la contagion dans l'apparition d'une maladie.
Alors ça, aujourd'hui, ça pourrait se discuter quand même.
Voilà.
Hein?
Alors, relativiser ne veut pas dire nier. Hein?
Mais ça pourrait se discuter quand même.
Voilà. C'est-à-dire que en médecine prophétique, on va insister davantage sur le terrain plutôt que sur l'agent pathogène.
C'est-à-dire qu'il refusait la fatalité de la contagion.
Exactement. Ouais. Et il considérait la fatalité de la contagion comme une superstition. Le prophète disait que c'était du même ordre que la superstition de l'ornithomancie, c'est-à-dire le fait de tirer les augures à partir des vols des oiseaux. Si ça part à droite, mon projet va réussir. Si ça part à gauche, mon projet va capoter. Bon, ça c'est la superstition qu'avaient les Arabes avant l'islam. Et le prophète dit, la contagion est du même niveau. Mais alors là, un bédouin arabe se lève et dit, mais ô prophète, moi quand mes chameaux sont dans le désert, ils sont en pleine forme, et parfois il suffit que j'arrive à la Mecque et que mes chameaux fréquentent d'autres chameaux pour qu'ils attrapent la gale. Donc il parle de son expérience de contagion au prophète. Et le prophète sourit et lui dit, oui, dans ce cas, qui a contaminé le premier chameau? Si on dit que toute maladie vient d'un contact avec un malade, mais il faut bien un malade zéro.
Les virus ne sont pas dans l'air. Hein.
Donc voilà. Oui. Alors bon. Évidemment, en même temps, il ne nie pas la contamination. Il en a parlé dans d'autres hadiths. Par exemple, il disait, si vous apprenez qu'il y a la peste dans une ville, n'y entrez pas. Et si vous êtes dans une ville où il y a la peste, n'en sortez pas, pour ne pas l'exporter ailleurs. Bon, mais je dis relativiser, c'est-à-dire comprendre que finalement le plus important n'est pas d'avoir peur de la contamination et de développer une psychose, c'est surtout de se renforcer. Il faut renforcer sa santé, prendre soin de son corps. Aujourd'hui, en naturopathie, on parle de renforcer le terrain, finalement.
L'importance du terrain. Autre principe directeur de la médecine prophétique, tous les remèdes
sont dans la nature. Oui, alors ça c'est un principe très fort. Parce que le prophète enseignait, il n'y a pas de maladie qui soit descendue sur terre sans que Dieu fasse descendre son remède, qu'on le connaisse ou qu'on l'ignore. Alors après, évidemment, il y a parfois des choses que l'on ignore, mais ce hadith est un formidable appel à la recherche finalement, puisqu'il nous donne la certitude qu'il n'y a pas de fatalité, y compris des maladies qui peuvent nous paraître incurables. Il peut exister dans la nature donc, des remèdes. Et donc, c'est pas étonnant finalement que les musulmans, dans les premiers siècles, ont fait tant de découvertes parce qu'il y avait cette impulsion très forte du Coran et du hadith à la recherche. Alors, autre chose aussi qu'on peut déduire de ce hadith, c'est que finalement, si tous les remèdes sont dans la nature, il nous faut privilégier les molécules naturelles sur les molécules synthétiques. Ça aussi, c'est quelque chose qui est souligné en médecine prophétique.
On parlait de l'alimentation du prophète tout à l'heure, mais certains hadiths laissent entendre qu'il faut considérer les effets des combinaisons alimentaires.
Oui.
Bon. Oui, oui. Alors c'est important parce qu'on fait beaucoup de soupes hein, pendant le mois du Ramadan. Donc les combinaisons alimentaires, je ne sais pas si elles fonctionnent bien quand on fait une soupe. Aujourd'hui, il y a certains chercheurs et des biologistes hein, qui s'intéressent beaucoup à l'effet des combinaisons alimentaires. Alors quels sont les aliments qu'il faudrait ne pas associer ?
Alors, de manière globale, le prophète aimait associer des aliments frais et des aliments secs. Un aliment sec, c'est par exemple les dattes sèches. Les dattes que nous mangeons en général, ce sont des dattes sèches. Et il combinait ça avec des aliments frais comme le concombre ou comme la pastèque. Et il disait qu'il y avait là vraiment une force et une protection quand on combinait les deux. Mmh. Aujourd'hui, on sait que les aliments frais contiennent beaucoup plus d'enzymes qui vont être très bons pour le corps, alors que les aliments secs, comme ils sont restés un mois, deux mois, trois mois, ont perdu ces enzymes. Parfois, ils ont perdu des vitamines, etc. La vitamine C, on sait qu'elle est très instable. Bon. Mmh. Donc tout ça, en fait, c'était une façon de combiner les bienfaits et de rééquilibrer, disons, entre aliments secs et aliments frais. Alors aujourd'hui, effectivement, beaucoup de médecins, beaucoup de naturopathes s'intéressent aux combinaisons, mais ils s'intéressent dans une autre perspective.
Oui, la base est l'acidité.
Exactement. L'équilibre donc acido-basique du corps. Alors c'est vrai, beaucoup d'entre nous avons fait cette expérience. Quand on mange par exemple de la viande ou du poisson avec des amidons forts comme du riz par exemple, eh bien on va mettre du temps pour bien digérer les choses. Alors que le même poisson mangé avec des haricots verts par exemple va se digérer plus facilement. Parce que effectivement les protéines se digèrent en milieu acide. Les amidons se digèrent en milieu basique ou alcalin, donc c'est un peu opposé. Et donc, il y a cet effort, effectivement, à faire dans le choix. Alors aujourd'hui, pourquoi la question se pose ? Parce qu'à l'époque, par nécessité, les choses étaient simples. Il y avait de temps en temps...
Il n'y avait pas la variété des aliments qu'on retrouve aujourd'hui.
Non, du tout. Ouais. Il y avait parfois des repas de fête qui pouvaient être riches, mais c'était très très rare. Au quotidien, les gens mangeaient... un légume, voire deux légumes, et puis peut-être un petit peu de galette d'orge, et puis c'est tout. Nous, aujourd'hui, nous mangeons de tous les aliments, parfois au même repas. Et c'est ça qui peut donc ralentir la digestion.
La médecine prophétique, hein, c'est le titre du livre que vous publiez, oui. Tayeb Chouiref, Approche traditionnelle et recherche contemporaine, et vous êtes notre invité jusqu'à 13h.
AVS revient dans un instant. Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, et nous écoutons le professeur Tayeb Chouiref nous parler de médecine prophétique ce matin, et vous pouvez constater que c'est passionnant. Je rappelle, professeur, que vous publiez La médecine prophétique, approche traditionnelle et recherche contemporaine. Alors, il y a énormément de choses hein, sur la médecine prophétique. Il y a beaucoup de ces fameux alicaments, les aliments médicaments. Alors, il y a ceux qu'on connaît, il y a ceux qu'on connaît moins. Par exemple, alors il y en a peut-être qui vont faire la grimace hein, si on parle de foie de poisson.
Oui, tout à fait.
Et pourtant, au paradis, on va se délecter de foie de poisson.
C'est ça, exactement. Pour comment dire, pour imager et symboliser ce qui va constituer le premier repas que feront les habitants du paradis, le prophète a évoqué un foie de poisson. Alors, on sait que quand il utilise quelque chose connu sur Terre pour évoquer une réalité du ciel, c'est pour donner quelque chose d'approchant, parce que ce qui se trouve au ciel est radicalement différent, bien sûr, de ce qui se trouve sur Terre. Mais en même temps, ça nous indique qu'il y a quelque chose d'une vertu spécifique ou une bénédiction spécifique qu'on peut retrouver dans cet aliment. Et alors, quand on s'intéresse au foie de poisson, on se rend compte que c'est un aliment qui est très riche en vitamine D et en oméga-3. Et d'année en année, on entend parler de plus en plus des bienfaits des oméga-3 et des bienfaits de la vitamine D. Et c'est tant mieux, parce que notamment en vitamine D, nous sommes tous carencés, parfois sans même nous en rendre compte. Et la vitamine D, quand on est carencé, eh bien, il y a énormément de conséquences négatives pour la santé.
Ouais. Alors, si plutôt que d'aller faire votre dose de vitamine D, mangez du foie de poisson.
Exactement. Alors, il y a plusieurs façons de le manger. On peut le cuisiner directement. Ou bien, on peut aussi consommer de l'huile de foie de morue, par exemple. Il y a encore quelques décennies, tous les enfants avaient en hiver quelques cuillères d'huile de foie de morue pour faciliter tout l'hiver. Alors, ça n'a pas laissé des souvenirs...
Là, on peut faire la grimace, quand même.
Voilà. Ouais. Mais en même temps, quel bienfait pour le corps. Hein, et donc les personnes qui disaient « Oui, moi, dans mon enfance, on me faisait boire de l'huile de foie de morue pour éviter les infections de l'hiver », disent « Mais je passais un très bon hiver.
» Mais ça coûte une blinde, en plus, aujourd'hui.
C'est pas donné.
C'est pas donné, en plus.
C'est pas donné. Ouais. Alors, effectivement, une bouteille de 250 millilitres va coûter entre 20 et 30 euros. Mais on la garde tout l'hiver, parce qu'on en prend une cuillère à café le matin. Ça dure pendant 3 mois, 4 mois. Donc, voilà.
Donc, le matin, vous avez votre cuillère d'huile de foie de morue, votre cuillère d'huile d'olive.
Alors, l'huile d'olive, comme elle a un très bon goût, on va l'intégrer à la cuisine plutôt que de la boire à la cuillère. Alors, certaines personnes le font, mais enfin, c'est quand même beaucoup mieux d'assaisonner ses aliments avec l'huile d'olive et de bénéficier de ses bienfaits anti-inflammatoires, de ses bienfaits sur la santé cardiovasculaire. Beaucoup de médecins disent qu'aujourd'hui, un des grands éléments qui fait, l'efficacité du régime crétois ou du régime méditerranéen, c'est surtout l'huile d'olive.
Quelles sont certaines variétés de fruits, de légumes ou de médicaments qui sont cités dans le Coran?
Alors, il y en a vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de fruits, il y a certains légumes. Il y a par exemple la courge. En fait, on devrait dire les courges, puisqu'il y a de nombreuses variétés dans cette famille. Donc, les potirons, les citrouilles, etc. Ils ont une grande richesse en vitamines, en oligo-éléments. Ils sont très peu caloriques. Donc, pour les personnes qui veulent un peu perdre du poids, la soupe de potiron est excellente.
Voilà, remplacer la shorba par la soupe de potiron.
Alors là, c'est vraiment excellent, effectivement. Et puis, chose qu'on néglige souvent, c'est que les graines...
Les pépins de courge.
Les pépins de courge sont tout à fait excellents, notamment pour la santé masculine, pour la prostate, mais aussi ça limite la perte de cheveux, parce que c'est un dérivé de la testostérone qui fait perdre les cheveux. Or, l'huile de pépin de courge va diminuer la formation de cette fameuse DHT, donc issue de la testostérone, et va permettre de limiter la chute des cheveux, ce qui est vraiment... Alors, pour les hommes, c'est surtout l'alopécie des hommes.
Ça fait partie des propriétés, notamment de l'huile de pépin de courge.
Tout à fait. Et alors, son goût étant très bon aussi, moi, je l'intègre directement pour assaisonner mes salades. Donc, pas besoin de la prendre à la cuillère. Voilà.
Alors, on a parlé des dates tout à l'heure, on ne va pas revenir dessus. Alors, par exemple, la figue qui fait l'objet d'un serment de Dieu aux côtés de l'olive.
Oui, il y a une sourate qui porte son nom, donc « Wattin wa zaytoun » par la figue et par l'olive. On peut traduire aussi par le figuier et par l'olivier. Le prophète disait que c'était un fruit du paradis et que, comme d'autres fruits du paradis, ce sont des fruits sans noyau. Ils peuvent avoir des pépins, mais pas de noyau. Et alors, parmi les vertus médicinales, alors il y en a une qui est très connue, c'est de favoriser le transit. Or, tout ce qui favorise le transit, c'est pas simplement pour le confort du quotidien. C'est vraiment pour préserver la santé sur le long terme. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'un transit ralenti veut dire donc des selles qui vont stagner plus longtemps et qui risquent d'auto-intoxiquer le corps. Avoir un transit qui est bien fluide, c'est pas simplement une légèreté qui est déjà un confort au quotidien, mais c'est aussi surtout préserver son capital santé. Donc la figue était recommandée pour le transit, comme d'ailleurs le séné, qui est un des grands remèdes aussi de la médecine prophétique, cette plante qui se boit en en tisane lors des constipations plutôt sévères. Alors, le séné, c'est à prendre avec précaution, hein, parce que
avec
c'est un laxatif. Parcimonie
et bon escient.
Ah, tout à fait, c'est un laxatif assez puissant, mais qui va être très utile en cas de constipation occasionnelle et qui est qui n'est pas, disons, rétabli à, quand on a ajouté un peu de fibres. Quand on voit que c'est pas suffisant, quand les fibres sont pas suffisantes, eh bien, on va pouvoir prendre une tisane de séné et là, on est soulagé.
Bon. La figue, ai-je appris dans votre livre, c'est très bon pour les crises hémorroïdaires.
Oui, parce que tout ce qui va en fait faciliter le transit, tout ce qui va faire en sorte que l'individu n'a pas besoin de pousser les selles, elles sont expulsées très facilement, eh bien va limiter l'irritation.
Voilà.
Et donc les crises hémorroïdaires. Oui.
Alors le jujube, par exemple, oui, alors, pour ceux qui se souviennent du voyage céleste.
Eh bien, c'est ça. Le jujubier est... parfois, on trouve l'expression « lotus de la limite » pour « siderat al-muntaha ». Mais c'est plutôt le jujubier de la limite. Je ne sais pas très bien d'où vient l'expression « lotus de la limite ». On le trouve hein, dans certaines traductions du Coran, mais c'est vraiment le jujubier. Alors, c'est un arbre céleste et qui, évidemment, donc sur Terre aussi, a des... à des bienfaits qui vont participer à préserver l'énergie, préserver la santé de manière générale.
On en trouve du jujubier, enfin des...
Alors on en trouve assez rarement. Par contre, ce qu'on peut trouver, c'est du miel de jujubier.
Qui vaut une blinde aussi,
qui
d'ailleurs.
Qui vaut très cher, parce que déjà le miel aujourd'hui est devenu relativement rare. Et puis le miel du jujubier, il y a quelques régions au Maroc où c'est produit, quelques régions en Algérie, c'est vraiment assez rare. Mais effectivement, quand on a des amis ou de la famille qui peuvent nous en apporter, c'est très précieux pour tous les bienfaits. En fait, ça cumule les effets du miel d'un côté et du jujubier de l'autre.
D'ailleurs, le miel est l'une des rares substances dont le Coran affirme directement la valeur thérapeutique.
Oui, effectivement. En général, comme par exemple pour l'olivier ou pour le figuier, ça va être juste des serments. Dans le Coran, il va être prêté serment par l'olivier, par le figuier, mais on n'aura pas de vertu thérapeutique. Tandis que dans le miel, il est dit très expressément, dans la sourate 16, qui porte le nom Les Abeilles, hein, la sourate Les Abeilles, il y a dans le miel une guérison pour les hommes. Fihi shifa'un linnas. Et donc cette guérison, elle est très, très générale. Alors dans les hadiths, c'est surtout les problèmes intestinaux qui sont cités. Donc prendre du miel pour les ballonnements, pour améliorer la digestion. Mais aujourd'hui, on sait par exemple que le miel a un pouvoir cicatrisant extraordinaire. Et grâce au courage du professeur Bernard Descôtes, dont il faut saluer la mémoire, il nous a quittés en 2009, le miel est utilisé au CHU de Limoges pour traiter les grands brûlés.
Chez les grands brûlés, oui.
Pour favoriser la cicatrisation. Et ils ont des résultats qui sont vraiment impressionnants. Et alors, ils ont essayé différents types de miel et se sont rendus compte que le miel de thym avait une petite supériorité sur les autres miels en termes de cicatrisation des plaies. Si bien qu'ils ont passé donc, des accords avec des apiculteurs de la région qui fournissent directement le CHU de Limoges en miel de thym. Donc voilà.
Alors une question qui revient souvent dans les émissions religieuses, c'est est-ce que le vinaigre est halal ou pas ?
Oui, cette question revient souvent parce qu'il y a une confusion entre degré d'alcool et degré d'acide. Quand vous lisez sur une bouteille de vinaigre 6 degrés ou 8 degrés, ce ne sont pas des degrés d'alcool, ce sont des degrés d'acide parce que l'alcool a été transformé en acide. Donc il n'y a pas du tout d'alcool dans le vinaigre. Mmh. Donc, non seulement c'est halal, mais c'est même un condiment très apprécié par le prophète qui aimait en avoir lors des repas, qui aimait par exemple tremper sa galette d'orge dans du vinaigre avant de la manger. Et, alors, évidemment, il y a vinaigre et vinaigre. Il y a des vinaigres de haute qualité, puis il y a des vinaigres vraiment de très très basse qualité, je dirais. Si on veut un vinaigre de qualité, on va favoriser le vinaigre de cidre. Et si possible, avec ce qu'on appelle la mère. La mer, c'est un ensemble de filaments et de protéines et de...
C'est ce qu'on voit au fond, là, qui flotte.
Voilà, enfin, et de bactéries.
Non, qui flotte pas.
Voilà, qui se développe au fond. Et c'est pas signe de mauvaise qualité. Au contraire, c'est signe de grande qualité. Bon, évidemment, il faut que le cidre soit biologique pour que la mer subsiste. Et donc, on a dedans ce qu'on appelle des probiotiques, c'est-à-dire des bonnes bactéries qui vont aider notre propre système digestif à mieux digérer les choses. Donc, du vinaigre de cidre avec mer, quand c'est possible.
Les influenceuses, aujourd'hui, s'en servent pour mincir, pour perdre du poids.
Ouais. Tiens, d'accord.
Du vinaigre.
Ben voilà.
Attention aux dents.
C'est ça, parce que...
À l'émail des dents.
Oui, tout à fait. Et alors,
parce qu'il faut toujours diluer le vinaigre.
Est-ce qu'elle parle de l'importance de la mer, donc un vinaigre?
Alors, je suis assez peu les influenceuses qui perdent du poids.
D'accord.
Mais en tout cas, elles se servent du vinaigre pour la glycémie, notamment.
Tout à fait. Voilà. Exactement.
Ouais. Alors, il y a beaucoup de.
Oui. Dans l'ouvrage, je cite les travaux d'une chercheuse américaine qui a montré que quand on consomme un peu de vinaigre avec notre plat. S'il y a des amidons dans notre plat, eh bien, la glycémie va monter moins vite et on va éviter un pic trop fort de glycémie parce qu'il faudra un peu plus de temps pour que les amidons se transforment en sucre, ce qui est très bon pour reculer ou ne pas aller, disons, vers le diabète.
Bon, on va terminer avec le siwak.
Oui.
Qui connaît des regains de popularité. Alors, le siwak a plus de vertus qu'on imagine.
Exactement. On a beaucoup, disons, de musulmans ont eu comme idée qu'effectivement, c'est une recommandation prophétique parce qu'à l'époque, il n'y avait pas, bon, évidemment, de brosse à dents et que les bienfaits, finalement, viennent de l'effet mécanique. C'est-à-dire que mécaniquement, on va enlever les restes de nourriture et un peu la plaque dentaire, si bien que c'est bon pour les dents, certes. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de substances actives dans ce bois d'arak. Donc siwak, et ces substances actives vont être antibactériennes, vont renforcer l'émail des dents, vont retarder la formation de la plaque dentaire, et c'est toutes ces substances présentes dans ce bois qui sont précieuses. Ce qui veut dire aussi qu'il faut pas le garder trop longtemps, et dans l'idéal, il faut couper tous les deux jours pour bénéficier de ces substances, parce qu'au bout de quelques usages, vous n'en avez plus. Voilà, voilà.
Bon, de toute façon, la suite est dans votre livre. Vous êtes un puits de science. La médecine prophétique, approche traditionnelle et recherche contemporaine, héritage prophétique, dont l'éditeur, c'est Tasnim. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
C'est un plaisir que de vous écouter.
Merci.
Alors, j'espère que vous reviendrez avant 15 ans.
J'espère aussi.
À mon âge, faut se dépêcher. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous.
Merci encore.
Et passez une très belle journée. Santé sur beurrefm.
Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli beurrefm.